Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est en 1959, à l'âge de 29 ans, que Marie-Madeleine Perronet entre au service de l'exploratrice française Alexandra David-Nels. Devenue sa secrétaire, Marie-Madeleine a partagé le quotidien de cette femme à la personnalité hors norme, qui mourra en 1969 à l'âge de 102 ans. Cette rencontre a changé le cours de sa vie. Et 50 ans plus tard, Marie-Madeleine Perronet continue de transmettre les mémoires d'Alexandra David-Nels. Je l'ai rencontrée à Digne-les-Bains, dans la fondation d'Alexandra. Marie-Madeleine nous raconte son histoire auprès de cette grande exploratrice. On va pas parler que d'Alexandra, on va parler aussi de vous. Donc,
de moi, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas intéressant, je suis un petit trait d'union entre elle et vous. C'est tout. Qu'est-ce que je vous dis?
Vous avez votre rôle aujourd'hui aussi à jouer.
Oui, mais un rôle que je n'ai pas voulu, hein, que je n'ai pas choisi. Et si j'avais eu le choix, je ne serais pas là. Vous avez vu le petit film? Qu'est-ce que je vous dis? Quand je suis arrivé à la porte en bas, si on m'avait dit ce qui m'attendait avec elle et après elle, mais monsieur, je ne serais pas en train de vous parler, je fuyais tout de suite. J'aurais dit, je n'avais pas les possibilités pour, les capacités pour. Comme quoi, remarquez, il faut dire, jamais dire qu'on n'est pas capable de quelque chose. Avec la volonté et la passion, on y arrive. Voilà.
Mais vous êtes venu à cette porte, quelque chose vous a poussé à venir frapper.
Non, personne ne m'a poussé. Alexandra cherchait quelqu'un, moi je ne cherchais personne. J'étais une jeune fille de bonne famille qui voyageait pour son plaisir. J'avais aidé ma sœur à installer son hôtel à Aix-en-Provence, et dans cet hôtel est arrivée une assistante sociale suissesse, tout à fait charmante et fort distinguée, qui a pris une chambre. Et à brûle-pourpoint, au bout de 3-4 jours, cette assistante sociale me dit « Qu'est-ce que vous feriez bien, vous, avec mon ami ?» J'ai dit « Qui est votre ami, madame ?» Elle pontifie un peu, elle me dit « Madame Alexandra David-Nels. » J'ai dit « Qui c'est ça ?» Elle dit « Comment? Vous êtes française? Vous ne connaissez pas Alexandra David-Nels ?» Je dis « Écoutez, madame, excusez-moi, je ne connais pas Alexandra David-Nels. Parlez-moi de la veuve, l'orphelin, la Croix-Rouge, toutes les bonnes œuvres, je connais. Je ne connais pas David-Nels. » Je vais vous présenter à elle. À 2h d'après-midi, nous, à l'époque, j'étais une jeune fille de bonne famille, je suis obligée de le dire parce que ça ne se voit plus, mais on n'allait pas voir une grande dame sans bas de soie et gants blancs, ça ne se faisait pas. Maintenant, on peut avoir des jeans déchirés, c'est encore mieux. Mais enfin, c'est pas à ce moment-là, ça remonte à 54 ans, hein, ce que je vous dis. Ah, elle me dit, mais non, vous êtes très bien, mais plus vous serez sale, mieux ça sera. Évidemment, vu ce qu'elle avait vu au Tibet, j'étais très propre. Alors, on me présente à elle, à l'hôtel Sexus, à Aix-en-Provence. L'hôtel de ma soeur, c'était à 5 minutes. Et je vois une dame avec... Moi, j'étais une amoureuse de l'intelligence. J'avais refusé le mariage, la maternité, mais je voulais consacrer ma passion et ma vie à quelqu'un d'intelligent, aider quelqu'un. Alors, moi, je savais que je ne pouvais pas faire des grandes choses par moi-même, mais aider ceux qui peuvent faire des grandes choses. J'ai voulu partir avec Schweizer à l'embarrainer. J'ai voulu partir ambulancière, brancardière en Indochine. Alors, on me présente David-Nels. Je vois, elle avait un regard, cette femme, exceptionnel. On aurait dit qu'il tirait des traits, qu'on aurait pu l'attraper. C'était extraordinaire. Moi qui cherchais l'intelligence, j'étais devant l'intelligence. Alors, asseyez-vous, mademoiselle, comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Marie-Hélène Perronet, quel âge avez-vous? Je vais avoir 29 ans. Que faisiez-vous dans la vie? Je dis rien, madame. Je voyage pour mon plaisir parce que j'aime les voyages et les enfants. Oh, elle me dit, comme cela est bien. Comme je suis moi-même retombée en enfance, vous êtes tout à fait ce qui me convient qu'elle me dit comme ça. Retombée en enfance, enfin bon. Alors, au bout d'un... Bon, quand elle a su tout ce qu'elle voulait savoir de moi, mes parents, mon père, ma mère, mes grands-pères, grands-parents, elle me dit, au revoir, mademoiselle. Ah ben, au revoir, madame, je m'en vais. Avec l'assistante sociale qui m'accompagnait. À peine arrivée à l'hôtel chez ma soeur, je vous dis, à 5 minutes, mon beau-frère me dit, mais on vient de taper du Sexus. Mais je viens de sortir de là. Et le téléphone sonne de nouveau. Et madame Lachaussière, son nom me revient. La directrice me dit, madame Nel, vous fait demander de toute urgence. Ben, je remonte, dites-lui, je serai là dans 5 minutes. J'arrive, elle était debout, devant des mâles d'osiers. Ils sortaient de là des choubas, le manteau tibétain, je ne savais pas que ça s'appelait une chouba à l'époque. Elle était là debout, elle me dit, mon enfant, ne me quittez pas, je vais mourir dans 2 heures. Une femme de 91 ans qui vous dit qu'elle va mourir dans 2 heures, vous le croyez? Et puis je venais de lui dire que j'avais passé ma vie à m'occuper des autres, des enfants. Je ne pouvais pas laisser une femme. Je lui ai dit, mais madame, si vous avez besoin de moi pour la soirée, je... même la nuit, s'il le faut, je resterai près de vous. Je ne vous abandonnerai pas. Et puis ça a duré 54 ans. Voilà comment ça s'est fait. Voilà. Tout à fait par hasard. On est arrivé ici. Elle m'a dit, chez moi, vous n'aurez rien à faire. Vous allez habiter une belle villa. Trois terrasses, un parc de roses à contempler. Si vous avez... On ne voyait pas la maison enserrée dans des arbres. Les rosiers, ils étaient là, mais on ne les voyait plus non plus. La route, elle n'était pas goudronnée à l'époque, évidemment. Je ne pouvais pas monter avec la 4 chevaux parce qu'il y avait les herbes qui m'empêchaient de monter. C'était un... Et alors, l'extérieur, c'était rien à côté de l'intérieur. Un Capharnaüm. Mais c'était épouvantable. Vous savez, une jeune fille de bonne famille vivant dans un bel intérieur bourgeois, comme tout le monde, quoi. Vous arrivez dans ce Capharnaüm. Mais j'étais complètement ahurie. Non, rien ne m'attirait. Je voulais aller en Amérique du Sud, moi. J'ai fait l'Asie. Je ne sais pas si vous croyez au libre arbitre. Moi, je n'y crois pas du tout.
Ouais. Mais quelque chose a fait que vous êtes resté quand même. Vous aussi, vous avez un caractère. Alors, avec cette envie de voyager, de vivre, de découvrir.
Oui, bien sûr, parce que là, c'était un sacerdoce. Voilà. Alors, pourquoi je suis restée? Ben, parce que d'abord, dans ma famille, on a été élevés comme ça. Mes parents, quand ils nous grondaient ou qu'ils nous faisaient de la morale, ils nous vouvoyaient. Ça portait, mademoiselle. Alors, dans la vie, vous devez choisir une voie haute et noble et aller jusqu'au bout. On ne dévie pas, même si on sait que la guillotine vous attend au bout. J'ai été élevée comme ça, j'ai commencé, ben j'ai été jusqu'au bout. Il y a 54 ans que je suis là. Il paraît qu'on est un cas unique au point de vue des grands personnages avec leur secrétaire. Il y a 44 ans qu'elle est morte, je suis toujours là à parler d'elle. Évidemment, c'est la grande différence d'âge. Elle allait avoir 91 ans, moi j'allais avoir 29 ans. Je peux être son arrière-petite-fille, c'est comme ça que je peux, autant de temps après, parler d'elle.
Avec une telle différence d'âge, est-ce qu'on communique bien? De quoi on parle? Est-ce que le dialogue est facile? Est-ce qu'on s'entend facilement?
Mais oui. Mais je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup plus rigolé avec Alexandra, qui avait un humour débordant, enfin, il y a de qualité pour que je la supporte, qu'avec les filles qui sont autour de moi. J'ai beaucoup pleuré, mais attention, à côté de ça, la vie était extrêmement difficile. Parce que d'abord, je n'étais pas préparée à mener cette vie-là. Elle me dit, vous n'aurez rien à faire. On arrive là, elle s'installe, le voyage en auto, je ne l'avais pas fatiguée, elle se met à écrire. Et elle me dit, tu vas monter dans ma bibliothèque. Elle avait une mémoire extraordinaire. Si elle me disait, le livre est avec une lustrine verte à gauche, à la troisième étagère, il était là. Elle avait quitté la maison depuis 4 ans. Bon. Mais la première fois, elle me dit, va dans mon bureau, dans ma bibliothèque, prends la Bhagavad Gita, Savaka Gita, le Dhammapada. Moi, je n'avais pas monté 3 escaliers, bagada, je ne sais plus ce qu'il fallait chercher. Alors, j'écoutais, madame, vous m'avez dit que je n'aurais rien à faire chez vous, et maintenant, vous me faites faire des recherches dans des livres en langue que je ne connais pas. Prenez un crayon, un papier, écrivez-moi les noms et je vais aller chercher. Et puis, j'ai dit, madame, si vous n'êtes pas contente aussi, je peux partir. Je ne la connaissais pas beaucoup, mais avec le ton sur lequel je lui ai parlé, très autoritaire, très... Et puis j'étais très contrariée d'arriver dans un taudis pareil, je ne m'attendais pas à ça, moi. Mais j'ai dit, elle va me dire, partez, elle va me mettre à la porte. Eh bien, pas du tout, monsieur. Et elle s'est rassise sur son fauteuil, ravie, enchantée. Elle m'a dit, enfin, quelqu'un de jeune et qui sait ce qu'il veut. Elle a été ravie de mon comportement. Elle a dit, au moins, celle-là, elle me tient tête.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et donc pendant 10 ans avec Alexandra, David Nel, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années?
Pas d'heure pour travailler, pas d'heure pour dormir, pas d'heure pour manger. Ça ne facilitait pas les rapports. Quand à 2h du matin, j'ai dit, madame, on est fatigué maintenant, on va peut-être aller se coucher. Je dis, mais tu n'es pas fatigué puisque tu parles. Voilà, non, je tape à la machine. Moi, quand on était jeune à l'école, des copines disaient, moi, quand je serai grande, je serai dactylo. Moi, taper à la machine, tac, 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 toute la journée, jamais. Monsieur, j'ai tapé pendant 50 ans. Oui, voilà. Ah, je me suis mise au Macintosh, remarquez maintenant. Il fallait que je lui masse les jambes, que je la coiffe, que je lui fasse sa nourriture. Elle a flanqué la cuisinière à la porte. J'ai fait la cuisine. Et la bonne, elle voulait plus que moi. Plus que moi à la fin. C'est le caprice des vieux aussi. Elle voulait que moi. Alors, je faisais tout. J'étais venue pour rien faire, mais j'ai tout fait. Même t'as pas la machine.
Alors vous disiez, quand on est venu vous chercher, vous ne saviez pas qui était Alexandra David-Nels.
Non.
Et maintenant, je vous le demande, qui est Alexandra David-Nels?
Un monument. C'est une femme extraordinaire. Cette femme avait une intelligence. Mais il n'y a pas de qualificatif pour en parler. J'ai toujours, vous avez une intelligence grande comme toutes les galaxies réunies. Son amie Violette Sidney aussi disait, cette femme est un cerveau, mais est impossible à vivre. Voilà, c'était très difficile. Elle était très exigeante. Elle l'a été pour elle-même. Si vous lisez tous ses livres, vous verrez ce qu'elle a passé. Ce que vous pouvez dire d'Alexandra, c'est qu'elle a été un des plus curieux intellectuellement de notre siècle. Un esprit extrêmement curieux. Elle se serait faite bon Dieu pour aller au paradis, diable pour aller aux enfers. Elle voulait tout savoir, tout connaître, tout comprendre. Elle étudiait les rites, tout ça, tout. Elle faisait ses bouquins et après elle redevenait elle-même. Elle était extraordinaire. Ben ça, j'ai eu des conversations passionnantes avec elle. Parce qu'on a reçu des princes, des rois, des ambassadeurs, des missionnaires. On reçoit avec des gens formidables. Quand on reçoit des gens un peu médiocres, on me dit « Débrouille-toi avec eux. Tu en sais assez pour les distraire. »
Donc Alexandra de son vivant était déjà très connue et très appréciée.
Ah, oui, mais par un certain public. Non, pas le voyage à Lhasa, évidemment. Ça, il a été lu par des millions d'exemplaires. Mais elle était surtout connue par les tibétologues, les orientalistes, les passionnés de l'Asie, quoi.
Comment expliquer cet attrait pour l'Asie? Pourquoi est-ce qu'Alexandra a choisi de prendre la route? Parce qu'à cette époque-là, ça ne se faisait pas. Traditionnellement, les gens restaient, surtout la place de la femme était auprès de son mari, dans la chaumière.
Elle, c'était pas son style, voilà. Monsieur, c'est difficile de répondre à votre... Je vais vous dire, pourquoi vous êtes un homme? Pourquoi je suis une femme? On ne sait pas. Elle avait ça en elle, et ses lectures l'ont guidée. À 5 ans, elle lisait Jules Verne. Vous voyez, bon, elle était passionnée. Et puis après, elle a fait des rencontres formidables. Après, elle avait essayé dans la théosophie, ça ne lui a pas plu. Et elle a rencontré Sylvia Lévy Edouard Foucault, qui ont été ses deux grands maîtres. Et lui, justement, quand ils ont vu, elle était au musée Guimet, elle a vu le Bouddha, elle a été attirée par ça. Et puis, elle a lu quantité de bouquins. Et quand son premier voyage, elle avait, à 21 ans, elle a fait un héritage de l'Église par sa marraine. Elle est partie en Inde pour voir si ce qu'elle avait lu dans ses livres, ça avait bien compris, bien interprété. Mais quand elle est partie en 1911, pour son troisième grand voyage dans l'Orient, son quatrième, pardon, trois avant de connaître le mari, mais le premier grand voyage d'études, mais là, elle est partie ni avec son argent, elle, ni celui de son mari, elle est partie avec des subventions de l'État, trois ministères subventionnés. Et elle est partie avec des lettres d'introduction, entre autres de Sylvain Lévy, pour son maître, son grand maître qui s'appelait, je ne sais plus comment, Amsananda, je ne sais plus quoi, bon... Et donc, elle arrive là-bas en Inde pour rencontrer ce gourou, ce maître à penser. Là, de recommandation de Sylvain Lévy, l'autre, évidemment, parce que justement, une blanche, elle n'était pas acceptée. Mais venant de Sylvain Lévy, elle a été acceptée. Et quand il a parlé avec Alexandra, du Vedanta, etc., il a été subjugué par ses connaissances. Et non seulement ses connaissances, mais son interprétation. C'est comme ça que de lama en lama, de gourou en gourou, de maître en maître, elle est arrivée jusque dans l'Himalaya. Elle n'était pas partie pour faire une œuvre de tibétologue, elle était partie pour faire une étude sur le Vedanta pour elle-même. Et faire après des articles sur le Vedanta, d'accord. Elle n'était pas partie pour faire une œuvre aussi considérable, et particulièrement au Tibet, pas particulièrement. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Elle est partie pour 18 mois, elle est restée 14 ans.
Vous avez eu l'occasion de voyager avec Alexandra?
Eh, cher monsieur, vous me posez une question. Mais quand elle a fait ses voyages, j'étais pas née. Seulement, une chose, elle m'a tellement raconté ses voyages que quand j'arrive là-bas, je connais tout. Mais la première fois que j'étais en Inde, c'était pour faire l'immersion de ses cendres. selon son testament, selon ce qu'elle m'avait dit. Parce qu'elle avait dit, si c'est trop difficile, qu'on immerge mes cendres dans la Méditerranée. Si c'est pas trop difficile, qu'on m'envoie en Inde pour le Gange. Et alors là, parce qu'entre temps, moi, ma famille était complètement ruinée, elle est morte en 69, mais je suis partie qu'en 73, et il a fallu que j'économise mon voyage pour aller là-bas. Et après, j'ai fait toute la barrière himalayenne, l'ouverture du Ladakh, Népal, Sikkim, Bhoutan, Assam, parce que j'ai sorti un album de photos, des photos d'Alexandra, qui a eu beaucoup de succès. Mais j'avais sorti à l'époque avec toutes les imperfections. C'est-à-dire que maintenant que Franck a restauré les photos, on va en sortir un beaucoup mieux. Alors, je voulais compenser le manque de connaissances d'ivresse par la connaissance du pays. J'ai quand même fait un travail très honnête, bien qu'une imbécile, mais j'ai essayé d'être honnête.
Mais là, vous êtes parti donc pour le but de ce voyage à la base, c'était de déposer les cendres dans le Gange.
La première fois, oui. Et j'ai fait évidemment du tourisme du nord au sud, d'est en ouest. Mais le deuxième voyage, c'était précisément pour rencontrer le plus possible de Tibétains, pour faire un choix plus judicieux de mes photos. Vous voyez, voilà. Et puis après, j'étais au Tibet en 87. Heureusement, je crois que c'est le dernier beau voyage qu'on a fait là-bas. Parce que maintenant, ça a tellement changé. Les grandes surfaces, le train, les bus. Maintenant, c'est pas pour notre folklore qu'il faut qu'on entretienne les gens dans la misère et la trace, hein. Ça c'est sûr. Mais là maintenant, ça a complètement changé. Mais je ne retournerai pas au Tibet maintenant pour rien au monde.
Quel était le Lhasa que décrivait Alexandra quand elle y était au début ?
Et le laisser tel qu'il avait été pendant des millénaires. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas rien, aucun confort, rien. On mangeait de la tsampa, hein. Quand c'était bon, on mangeait chinois. Voilà, non. Elle a connu le vrai Tibet tel qu'il avait toujours été, quoi.
Mais comment est-ce qu'elle le décrivait ? Comment est-ce qu'elle le racontait, ce Tibet-là ?
Mais il faut lire ses livres, monsieur. Qu'est-ce que je vais vous raconter, moi ? Elle a fait 28 livres traduits en 34 langues. Elle vous décrit tout parfaitement, moi. Ben voilà, elle vous décrivait les paysages. Elle avait un sens. C'est une femme qui regardait les choses, mais qui les voyait. Parce que des fois, on regarde, mais on ne voit pas. Et elle décortiquait tout, les pierres, les arbres, la terre, les buissons. Elle avait si bien qu'elle avait un sens de l'analyse très poussé, si bien que quand elle écrivait sous la plume, elle vous décrivait le pays, vous voyez que on a voyagé avec elle. Moi, c'est pour ça que quand j'arrivais là-bas, je connaissais tout, parce que par ses livres, j'avais voyagé partout. Et puis attention, hein, ne croyez pas que c'est parce qu'elle aime des pays, qu'elle a la passion, qu'elle va vous dire qu'ils sont tous des saints. Les faux sadous, les saints charlatans en Inde, ils en prennent plein la face. Et elle a un prix littéraire à 100 ans avec ce livre-là. Et au Tibet, les grands lamas qui vivent dans leur tour d'ivoire et qui n'instruisent pas le peuple, ben je crois qu'ils le payent très cher aujourd'hui. S'ils avaient instruit leur peuple, ils n'auraient pas tenu du coup des barbares par les Chinois.
Elle a fait le choix quand même de rentrer ici en Europe, en France, pour terminer sa vie.
Ah ben il fallait qu'elle rentre pour faire ses livres, pour les contacts avec les éditeurs, etc. Ah ouais. Elle aurait préféré mourir là-bas, mais bon, c'était pas facile.
Mais donc elle avait déjà cette envie d'écrire, c'était quelque chose sur ses voyages, elle savait qu'elle allait écrire.
Monsieur, à 20 ans, elle avait déjà fait un traité anarchiste préfacé par Isiruku, qui est absolument extraordinaire. Là, dans ce traité, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme et les voyages. Hein. Mais tout le monde, c'est vous dire qu'elle avait la vue juste, même sur les gens qui l'entouraient. Parce qu'à 20 ans, tout le monde en prend, les rois, les princes, les bourgeois, les curés. Et quand quelques jours avant sa mort, elle m'a demandé de lui relire ce bouquin. Je lui ai dit, c'est votre meilleur livre, moi. Elle m'a écouté avec beaucoup d'attention, et quand j'ai fini de lui dire, elle m'a dit « Qu'est-ce qu'il est mauvais, ce bouquin ! Ah, qu'il est mauvais ! Si vous trouvez, madame ! » Elle me dit « Si j'écrivais aujourd'hui, tu verrais ce qu'ils prendraient tous. » Et bien, je ne vois pas ce que vous pouvez rajouter. Mais c'est pour vous dire, déjà, à 20 ans, la vue juste qu'elle avait sur le monde qui l'environnait, elle n'avait pas d'illusion. Et dans La Fronde, qui a été le premier journal féministe de notre époque, dirigé par la grande Marguerite Durand, elle réclamait, il y a 113 ans de ça, exactement, elle réclamait la rétribution de la femme au foyer. On l'a toujours pas. Elle dénonçait aussi mariage, profession pour femme. Dans un foyer, il y a des enfants, garçons et filles. Mais les garçons leur donnent une position. Les filles, c'est pas la peine, on les mariera. Elle dénonçait tout ça. Donc c'est pour vous dire, la vue juste qu'elle avait sur tout ce qui l'environnait, que ce soit paysage, personnage, les hommes, les grands, elle regardait, elle voyait tout. Et Arnaud Desjardins m'a raconté ceci. Quand il avait 20 ans, il était un peu tuberculeux, enfin, il avait des problèmes de poitrine. Il a été mis dans un sanatorium. Et dans la bibliothèque, il a découvert le bouddhisme du Bouddha d'Alexandra. C'est comme ça qu'il a commencé sa vocation. Voilà, mais autrement, il n'avait aucun rapport. Lui était plutôt un hindouiste.
Mais ce qu'il a emmené sur le chemin de l'Inde, c'était un bouquin d'Alexandra.
Au départ, oui.
Vous dites 10 ans en Inde, 10 ans au Tibet, 10 ans en Chine. Aujourd'hui, quand on pense Tibet, on pense Chine, forcément. Donc à l'époque d'Alexandra, pour elle, le Tibet et la Chine, c'était vraiment deux choses distinctes.
Monsieur, s'il n'amenait pas le tissu politique, car Alexandra a déjà connu le Dalai Lama en exil. C'est un problème qui perdure depuis 40 siècles. Et il faut savoir quand même que les Tibétains au XVIIe siècle ont aussi envahi la Chine. Ils n'auront pas fait de cadeau. Elle disait, quand il y a un être humain qui est un saint, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Elle constatait des faits. Elle a beaucoup regretté que ces peuples ne s'entendent pas, car elle dit, ils doivent s'entendre. Ils s'apporteront mutuellement du bien aussi. Voilà, elle a beaucoup regretté ça. Mais elle n'a jamais voulu prendre parti. Jamais. Parce qu'elle savait qu'il y avait, vous savez, la politique n'est pas belle chez nous, mais alors là-bas. Le Dalai Lama a dit, chez moi, dans ma maison, en 82, il a dit ceci, si je retourne au Tibet, ça ne sera plus jamais comme avant. Je crois que c'est un grand sujet de méditation. Si avant ça avait été bien, il aurait fait comme avant. Il comprenait, finalement, l'exil leur a fait énormément de bien. Parce que maintenant, il y a longtemps qu'il y a des gens intelligents au Tibet. Et bien maintenant, ils ont fait Oxford, ils ont fait des dentistes, des docteurs, des intellectuels. Il y a de tout. Ils ont appris à faire beaucoup de choses, etc. Je suis bouddhiste. Je réponds non, pour la raison suivante. C'est que j'ai lu suffisamment de livres sur le bouddhisme pour avoir lu que le Bouddha, quand il a prêché sa doctrine, une doctrine difficile à comprendre, difficile à répandre, il s'est adressé aux kshatriyas, c'est-à-dire aux fils et filles de famille, aux gens très intelligents, très cultivés. Comme je ne me place pas dans la catégorie des gens très intelligents, très cultivés, jamais je n'oserais dire que je suis bouddhiste. Mais je peux vous dire que je dois énormément à la philosophie bouddhiste.
Alexandra est partie à l'âge de 101 ans. On a vu dans le film que c'est vous qui lui avez fermé les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous choisissiez de rester, à continuer d'œuvrer pour son œuvre?
Rester, monsieur, pour la bonne raison que j'avais donc... J'avais 39 ans. Elle meurt. Et quand elle est morte, la ville de Digne était légataire universelle. Ils m'ont dit, si vous partez, qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais faire. Et alors, ils m'ont demandé de rester. Et j'avais ma mère encore là, partir où? Vous savez, quand vous avez connu Alexandra Daviel, même s'il a bien été très dur, très difficile avec elle, vous allez aller être caissière à Intermarché, quand vous avez connu une femme pareille? Parce que maintenant, j'ai beaucoup régressé. Mais vous m'auriez parlé il y a 50 ans, j'étais capable d'avoir une conversation beaucoup plus intelligente qu'avec vous, que de toutes les imbécilités que je viens de vous dire. Voilà. J'ai beaucoup régressé, parce que je me suis beaucoup dispersé. J'ai travaillé pour les gosses qui crèvent de faim. J'ai fait des bouquins, bon, d'accord. C'est avec les droits d'auteur d'Alexandra qu'on a fait ces deux maisons. Hein. Tout, c'est les droits d'auteur d'Alexandra. Et j'ai travaillé 18 heures par jour. Hein. Sans samedi, sans dimanche, les jours fériés. Mais j'étais jusqu'au bout de tout.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais donc les bouquins de Alexandra ont été publiés après sa mort.
C'est la correspondance. Ah non, de son vivant, ça a été aussi. Mais quand elle est morte, il y avait surtout Voyage à Lhasa, évidemment, Mystique et magicien du Tibet, et les trois livres de Shiadiar, La conscience transcendante, dans les livres philosophiques. Parallèlement, c'est... Et le bouddhisme du Bouddha. Le bouddhisme du Bouddha est sorti en 1911. Il a toujours été réédité à ce jour. Toujours. Parce que c'est de la philosophie pure. Il n'y a pas les dong-dong, les ding-ding, les cucu-coussins.
Et donc les autres bouquins, c'est vous qui les avez...
Ah non, mais c'est-à-dire que quand j'ai sorti les lettres à son mari, je vais vous dire encore une imbécilité, mais avant, qu'est-ce que c'était Alexandra Davinel à Digne et ailleurs? Oh d'accord, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et c'est formidable. Mais enfin, si elle avait eu un mari ou un amant, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Je sors les lettres à son mari. On apprend qu'elle a un mari. Ah ! Tout d'un coup, elle est devenue intelligente Et ces livres, tout a été réédité, j'ai tout fait rééditer et ça a été un succès international. Quand elle a su qu'elle avait eu un mari et qu'elle a eu l'intelligence de le plaquer.
Alexandra, 101 ans, une vie incroyable, un parcours extraordinaire. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager aujourd'hui? Les mémoires, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il faut transmettre aujourd'hui?
Ce qu'elle transmet, monsieur, je crois que, en un mot, c'était une femme très exigeante pour elle-même, elle l'a été pour tout le monde, mais elle était d'une intégrité absolue. Et d'une intelligence, bon, on en a déjà parlé, très vaste, et tout l'intéressé. C'est ça qu'on peut dire. Quand vous lisez ses livres, vous voyez qu'elle est intègre. Elle adore ce pays, mais elle ne dit pas que du bien. Elle a vu les choses, elle les raconte. Je crois que... Et puis, c'est un grand modèle de courage et d'énergie. Voilà. Elle a fait tellement de choses. Et elle, dans chaque lettre où j'ai ri, où j'ai pleuré, où j'ai médité, où j'ai été étonnée, et quand j'ai vu le bien qu'elle m'a fait, je me suis dit, il faut que tu le partages avec tout le monde. Et cette correspondance, ça a été le succès qui a provoqué la réaction de son heure. Tous les jeunes qui font des tests, c'est là-dessus. Car ils sont là, puis surtout aux jeunes. Quoique maintenant, elle plaît de plus en plus aussi aux vieux. Quand je faisais des conférences il y a plus de 40 ans, vous voyez les vieilles femmes, elles étaient plus jeunes que moi, mais elles se disaient, bon, quand même, cette femme qui a quitté son mari pour partir à l'aventure, mais quelle horreur! Vous savez ce qu'elles disent, les vieilles de 85 ans maintenant? Qu'est-ce qu'elle a bien fait? J'aurais bien fait d'en faire autant.
Mais elle a été le modèle pour beaucoup de monde, et je pense à Priscilla Telmont qui est partie sur ses traces.
Ah, Priscilla Telmont, je l'adore. Quelle gentille fille. Non seulement elle est jolie, elle est intelligente, mais elle est gentille. Ah, elle m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps, est en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, je crois. Elle n'a pas fait tout le parcours. Elle a fait que la moitié vers le sud, mais elle a souffert. Hein. Vous avez vu les pieds dans quel état les avait? Je l'adore. Alors, évidemment, beaucoup disent, évidemment, c'est du parisianisme, c'est servi du nom d'Alexandra. Et tout le monde s'est servi du nom d'Alexandra. Vous aussi, vous allez vous en servir. Eh bien, tant mieux. Ça fait connaître, vous touchez des publics différents. Parce que maintenant, dans le fond, moi, mon seul but, c'est de la faire connaître. Moi, j'ai dit, avec mon imbécilité, j'ai fait tout ce que j'ai pu avec les documents que j'avais. Je l'ai fait connaître. Je suis arrivé à un point, je ne peux pas aller plus loin. Mais maintenant, les jeunes qui font des tests sur elle, moi, je ne suis pas capable de faire une thèse sur David Nel. Les jeunes le font, c'est bien. Ils font des voyages sur ses traces, c'est bien. Moi, j'ai fait aussi des voyages sur des traces, mais en avion, en Toyota, hein. Pas à pied, ouais. Pas à pied.
Donc Alexandra Lavenel, c'est un parcours extraordinaire, une femme qui a su vivre la réalité, ses rêves, qui a su se donner les moyens de vivre ses rêves.
Ouais. Marche à l'étoile, même si elle est trop haute. Elle n'a jamais capitulé, il n'y a que la mort qui l'a arrêtée, et encore, je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Voilà, ouais, non, c'était une femme avec une volonté extraordinaire. Depuis l'âge de 3 ans, elle savait qu'elle allait mourir. Elle a tout le temps été à 2 heures de la mort. C'est pour ça que quand c'est arrivé, elle me dit, tu sais, comme disait mon papa, ça se sent. Je vais mourir, mets-moi ma robe de nuit, fais-moi ma queue, ma tresse, et mets-moi dans mon trou, dans mon lit. Je dis, mais madame, ça fait 10 ans que vous me dites que vous êtes à 2 heures de la mort, mais vous n'avez rien pour mourir. Si, je vais mourir. Elle s'est assise dans son fauteuil et elle s'est laissée mourir. Je ne pense pas qu'elle ait choisi. Elle aurait peut-être voulu vivre encore un peu pour voir les exploits des astronautes qui avaient mis les pieds sur la Lune. Enfin, disait-elle, les pieds, ils avaient leur scaphandre. Non, je ne crois pas qu'elle ait décidé de mourir. Je ne pense pas. Elle avait beaucoup d'être de curiosité. Sa curiosité intellectuelle, elle avait toujours soif de savoir ce qui allait arriver le lendemain. 17 nuits et 18 nuits d'agonie. Monsieur, croyez-moi, c'est lourd. C'est lourd. Elle, je ne sais pas si elle a souffert, mais moi, de voir une femme comme ça s'éteindre. Par contre, j'ai vécu un moment extraordinaire avec elle, que je n'ai pas raconté dans mon livre, je crois. Je ne l'ai jamais dit, je le dis rarement. C'est qu'elle ne me reconnaissait pas, à un moment donné. Elle commençait à sombrer. Et j'étais une personne qui était venue faire une visite. Et comme c'était une femme très bien élevée, elle savait recevoir, elle s'est obligée à me tenir la conversation. Et elle m'a parlé de moi, à moi-même. Et j'ai su ce qu'elle pensait de moi. Mais ça, je n'irai pas plus loin. Mais ça a été un moment... très, très émouvant.
Bon, ben merci en tout cas pour celui qui souhaite en découvrir plus, en apprendre plus. Eh ben, de nombreux bouquins, de nombreux ouvrages existent. Ou alors, il y a aussi ici, à Digne-les-Bains, la Fondation Alexandra David Nels. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.